Bienvenue au Polysécur et Social Spécial, je suis accompagné de Vincent.
Salut!
Ça va bien?
Ouais, très.
Ouais, puis là, on est à Vegas. Fait que là, on fait un retour d'expérience sur le DEFCON d'aller. Ça faisait 6 ans qu'on n'est pas allé. C'est quand même, ça fait un bail.
Ouais, effectivement. Puis, je suis pas du tout déçu. C'est la même belle ambiance. Puis, c'était extrêmement plaisant. Belle température en plus. Puis, sujet, écoute, d'actualité. Pas de grande nouveauté, mais quelques petits éléments surprenants puis intéressants.
Ben, bien sûr, de toute façon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus tellement de grandes surprises, mais ça, les surprises se passent ailleurs que dans les grandes salles. Point de vue logistique, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça coulait beaucoup. La dernière fois où on était venu, c'était plus pénible, c'est-à-dire que c'était difficile de changer de salle, il y avait des très longues files, des choses comme ça. Il n'y avait pas tant de densité de gens que ça, on n'a pas eu tant de misère que ça à rentrer dans les salles. Mon feeling, c'est qu'il n'y avait peut-être pas autant de personnes sur site, mais en même temps, c'est un nouveau lieu. Fait que c'est un dans l'autre, ça peut avoir joué. Le lieu est superbe. Ça a l'air d'être très neuf comme endroit. Donc, c'est très, très compo, c'est très bien. Ça, j'ai adoré ça. Les salles étaient un peu éco, par exemple, là, pour permettre de chialer un peu. Là. Des fois, c'était un peu difficile de comprendre quand les gens parlaient. Il fallait lire les sous-titres qui étaient. Quelques minutes des fois en décalage avec le réel, mais sinon c'est bien. On était sur les 3 jours, on était pas mal tout le temps là pendant les conférences aussi. Là.
Ouais, beaucoup de place à nos chercheurs européens cette année. C'était fort intéressant. Puis petite nouveauté qu'on a regardé, il y a beaucoup plus de villages où il y a beaucoup de gens qui participaient aussi là. Et il semblait y avoir des conférences dans les villages sur des sujets, mais des très bons sujets, l'actualité, l'intelligence artificielle, etc. C'est un peu la nouveauté qu'on a vue. Il y avait beaucoup plus de villages que les autres années.
Oui, ben c'est mon feeling aussi là, qu'il y avait plus ça. Puis c'est peut-être un peu où moi, je suis plus en habitude d'assister à des conférences. Les villages, historiquement, ça m'intéressait un peu moins parce que c'est des sujets très spécialisés ou dans des axes qui sont... qui était historiquement soit trop spécialisé pour moi, on va parler pour les véhicules automobiles par exemple, qui a quand même amené ça, ou des sujets dans lesquels j'ai un intérêt plus ou moins élevé, mettons. Fait que j'allais pas peu ou pas dans ce genre de choses-là. Fait que là, ça a pris de l'ampleur. Fait que ça va peut-être une des choses dans lesquelles je vais davantage aller probablement dans le prochain cycle, d'aller dans les villages plus que dans les conférences pour ça. Et j'avais d'ailleurs pas préparé mon. Ma cédule de conférences que je voulais aller voir en conséquence de ce genre de choses-là. Ça, c'est l'endroit un peu plus fait, je pense, pour moi cette année. Là, et dans le fond, les conférences, elles sont telles que telles. C'est très intéressant. On a vu de très intéressantes sur une panoplie de sujets là, qui étaient très intéressants. Donc, on va revenir sur certains sujets, mais oui, ça va être un peu plus ça. Puis ça change un peu le mot, ça change un peu les choses. Ça va changer mes habitudes. Je dois sortir de mes pantoufles, finalement.
Ouais, je vais faire le même chiolage que toi sur les salles qui étaient éco, puis le manque de gain, souvent, qu'il y avait sur les micros. Pas nécessairement les accents là, de nos confrères et consoeurs européens, là, mais il y avait vraiment un manque de gain, puis c'est vrai que c'était éco. Beaucoup d'interventions des petits gardiens de sécurité au t-shirt rouge. Pour pas que les gens traînent, là, puis c'était agaçant un petit peu, mais j'ai pas à me plaindre. Là, au niveau des sujets, c'était quand même excellent.
Oui, ils ont ramené ça. Il y avait beaucoup plus de discipline. Ça, pour l'avoir vu, ça fait de quoi depuis DEFCON 14 que j'assiste. Donc, ça fait quoi, 15, 16, 17 ans que je vois ça, pas toutes les années, là, puis surtout avec le confinement, tout ça, les choses ont changé. Là, fait que c'est ça, pour moi, c'est mon premier DEFCON post-confinement. C'est plus les mêmes, c'est plus la même ambiance. Hein, les choses ont changé, les choses ont évolué dans différentes directions. D'ailleurs, dans une des conférences, le GO a demandé justement qui était nouveau, c'était leur premier DEFCON. Puis il y avait au moins la moitié de la salle qui avait levé la main. Fait que ça a ça d'intéressant de voir qu'il y a un renouvellement très intéressant. Mais en même temps, j'ai l'impression, puis comme les gens de plus longtemps comme moi ne traînent plus dans les conférences, sont plus dans des cons à côté, dans des parties privées, des choses comme ça, dans lesquelles moi, je ne suis pas beaucoup pour de multiples raisons d'ailleurs. Mais ça l'enlève un peu. Fait que c'est un peu comme un événement à deux vitesses aussi, là, on se sent ça dans mon feeling. Là. Mais ça, j'imagine que chacun a son expérience par rapport à ça. Mais je dirais que la qualité des conférences en général, là, il y avait beaucoup d'humour, disons, dans les slides. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Là.
Ouais, beaucoup d'humour, puis beau décorum, rien de bien choquant. Puis petite parenthèse, ce que Nicolas disait sur un peu les peut-être la nouveauté, le renouvellement. Beaucoup d'enfants, beaucoup de parents maintenant qui osent apporter, venir avec leurs enfants, leurs ados. J'en ai vu beaucoup plus. Puis personne n'avait l'air malheureux dans le dossier. Là, c'est extrêmement plaisant. C'est le fun de voir ça, là, voir la relève, voir le fait que ça évolue, le DEFCON. Hein, il y en a pour tous les âges, tous les goûts à cette heure-là. C'est vraiment cool.
Oui, tout à fait. Puis, mais le mode, c'est ça, l'ambiance, c'était pas la même. Là, là, tu sais, ça fait quand même 6 ans la dernière fois. Tu essaies de mémorer comment que c'était la dernière fois. Il me semble que l'ambiance, le feeling était différent. Là, c'était, je trouvais ça plus serein de façon générale pour le volet conférence, le volet dans lequel que je traîne depuis les 16, 17 dernières années. C'était moins lourd, je sentais moins d'énergie négative, on va dire. Là. Déjà un peu plus nerveux, là, c'était comme beaucoup plus relax. Ou c'est peut-être moi aussi qui a changé aussi. Là. on a tous évolué avec le confinement, ça nous a fait voir la vie différemment. Peut-être de ce côté-là, mais en même temps, bref, c'est une expérience qui est en ce sens-là très intéressant. Moi, je viens pour m'inspirer, voir c'est quoi le mode actuel. Puis je vais reprendre ton terme, parce que je trouve ça très drôle, c'est copier-coller. Puis pour moi, je le vois, c'est... Je pense que c'est mon deuxième ou troisième copier-coller que je vois au DEFCON depuis que j'y suis, au sens où autant dans les premières années, j'ai vu la bascule du Web 2.0 où ils répétaient les mêmes erreurs qu'on avait corrigées avec l'ANSI. Ensuite, on voit à l'heure actuelle tout le volet cloud qui vit la même chose qu'on vivait avec que l'info Web 2.0 a vécu. Puis là, on voit un peu dans ces univers-là de répétition de stratégie. Puis on avait justement plusieurs conférences très intéressantes là, sur plein de sujets comme ça, mais ça revenait toujours à des... Pour moi, c'est des vieilles stratégies appliquées à des nouvelles technologies. Donc, clairement, ceux qui font les nouvelles technologies n'ont pas lu l'histoire. Fait qu'on répète encore les mêmes patentes.
Ouais, c'est ça que Nicolas dit ça. C'est les premières conférences qu'on a vues vendredi, quelques-unes samedi, qui semblait sous le même thème, puis aujourd'hui, fait que moi, j'appelle ça le grand thème de cette année, je trouve que c'est vraiment copier-coller, mais comme Nicolas dit, beaucoup plus avec l'info nuagique là, qui est en train de se répandre, puis s'installer. Puis comme tu l'as dit, tu as bien raison, les gens connaissent l'histoire, parce qu'ils vont encore trop vite. Moi, c'est ce que je pense, les gens vont vite. Les gens lisent plus, ils regardent plus leurs affaires.
Oui, je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, c'est très amusant parce que, tu sais, au même moment où on est ici, j'ai vu passer un commentaire sur LinkedIn d'une personne qui râlait sur le fait que Microsoft renomme ses produits ou change ses consoles. Comme si ça avait la vitesse à laquelle Microsoft le faisait, c'était nouveau. Mais non, ça fait longtemps qu'ils le font, mais sur des choses comme ça. Fait que je suis un peu étonné comme quoi tu dis justement, ça vient jouer. Les gens ne lisent pas les choses comme ça. Parce que ben, tu peux bien changer la console de nom, mais généralement, ça prend des mois, c'est pas des années, avant que tout l'ensemble des choses suivent. Fait qu'on n'est jamais pris au dépourvu. Si on a lu les choses, si on a lu l'histoire, si on ne fait pas juste comme surfer sur de la connaissance de surface, donc tant qu'à moi, il n'y a pas tant de problèmes comme ça, mais en même temps, bon.
Les déploiements infonuagiques, hein, les déploiements télétravail qui sont produits dans les dernières années aussi ont accéléré justement la venue de ces nouvelles technologies-là. Puis on retarde un petit peu nos lectures sur le bon fonctionnement, les bonnes pratiques. Faut maintenir nos opérateurs de console à un bon pace, mais on s'est fait un petit peu rattraper avec le confinement. Et puis ces déploiements-là n'ont cessé d'évoluer aussi. J'ai le fils d'un de mes très bons amis Il avait envie d'évoluer. Il m'a appelé ce printemps. J'ai discuté avec lui. Première affaire que j'ai dit, connais-tu très bien les consoles GCP, AWS, Azure, les consoles d'admin, je parle ici, de déploiement, de copie, de transfert, de migration, etc. Puis il m'a dit non, il dit je suis en train d'apprendre. J'ai dit c'est pas compliqué. Là. J'ai dit va faire des certifications. Puis trouve-toi un employeur qui a besoin d'une compétence comme ça, puis tu vas ouvrir tes portes. Là. Puis ça, mais c'est un petit peu la réalité de plusieurs personnes aussi.
Oui, ben, tout à fait. Puis je veux dire, ça fait longtemps ou peut-être un peu trop longtemps que je suis dans le domaine. Mais ce genre de remarques-là, puis dans le même mouvance qu'on copier-coller de toutes ces affaires-là, j'ai le même réflexe par rapport à l'info numérique ou à la sécurité de toute cette migration-là qu'il y a eu quand que Windows s'est imposé comme système d'exploitation pour les serveurs, puis tu as tout pris la place dans cet environnement-là. Félicitations à Microsoft d'avoir réussi ce tour de force-là. Cependant, le revers à ça, c'est qu'on est passé dans l'univers d'admin. On était en ligne de commande, qu'il fallait connaître les choses, qu'il fallait connaître la technologie, qu'il fallait maîtriser de façon très forte ce qui était en dessous puis comment tout ça fonctionnait à un environnement où t'es tenu par la main, t'es dans des aiguilles, puis tu fais juste du click-ops qu'ils appellent. C'est-à-dire que toute ta gestion d'administration, c'est de cliquer sur des cases puis de rappeler des petites affaires. Fait qu'on est passé d'un univers un à l'autre, puis j'ai l'impression que l'infonogique a fait le même effet. Si on est passé d'un univers où les gens qui maîtrisent pas très bien la technologie, comme les administrateurs Windows dans les premières années ne maîtrisaient pas bien la technologie, tu savais comment un peu cliquer, puis tu étais un hyper king admin Windows. Quand on allait faire, tu faisais juste cliquer deux, trois affaires, puis tu maîtrisais pas les choses comme ça. Ben on se retrouve avec la même affaire en infonogique. Et donc, incidemment, là, c'est pour ça qu'il y a un peu de copier-coller dans ce qu'on voit. Puis toi, ça doit sûrement te rappeler des choses-là. Tu es rentré pas mal dans les débuts de Windows 3, NT351, Novell, cette transition-là que, dans laquelle tu as commencé à travailler, un peu comme moi d'ailleurs.
Oui, le 3.1, 3.11, ensuite de ça, ben en fait, l'ancêtre du NT, le NT4. Le NT4 qui était magnifique en passant, c'est venu d'Amil Pion au Novell 3.12, puis ensuite de ça, le Novell 4.11 qui a décidé de s'imposer qu'une console graphique pour justement maintenir la cadence. Mais Microsoft les a malheureusement damé le pion parce qu'il y avait, ça allait très bien, le Novell 4.11, by the way, pour l'avoir testé puis essayé. Toutes les notions de container, de common name, de ci et de ça, Microsoft n'a rien inventé. Là. Novell avait cette architecture-là, justement, des fameux noms communs du parent à l'enfant, etc. Mais peu importe. Fait que oui, j'ai bien connu ça. Mais
en sens ça, Microsoft a démocratisé la chose. Le problème d'avoir démocratisé l'accessibilité au déploiement de ce genre de choses-là, ben c'est que là, on a vu une panoplie de gens qui ne maîtrisaient pas les notions de base que nous, plus vieux, avons dû apprendre. Donc, ils sont un peu plus, c'est ça. Là.
De toute façon, mon souvenir est fort simple. Là, le Novell, c'est un système très fermé à l'époque, de façon native. Microsoft, c'était un système très ouvert. Je les ai lus, les bibles MCSE. Puis les bibles, c'était quoi l'autre? Là? C'était celui de Novell, c'était Novell NCE? Peu importe, vous savez exactement ce que je veux dire.
Moi, je ne suis pas Novell, fait que j'ai pas
dans la préface, elle disait, là, je dis, on vous facilite l'installation, mais après ça, barrez vos portes. Là. Mais comme Nicolas l'a dit, le GUI, la fenêtre de dialogue dans la fenêtre de dialogue, c'est très facile de s'en barrer dehors. Puis, c'était pas toujours clair, mais, fallait quand même. On n'avait pas le choix. Il fallait s'y habituer à ce moment-là.
Oui, ben absolument. Là, puis bon, ben, ça a permis des choses. Là. Puis d'ailleurs, un peu ce que la valeur du MCSE arrivait au niveau Microsoft, c'était justement d'assurer le rehaussement. Que Microsoft essaie d'assurer que les personnes qui déployaient ces systèmes étaient plus connaissants. Mais dans l'absolu, j'ai pas vu sur le terrain ce genre de constat-là. Fait que ça, c'est un autre univers.
Puis là, ben, on est rendu avec ce qu'on appelle des tenants. On est rendu avec des consoles sophistiquées. On est rendu très, très dépendant de certains fournisseurs. On est rendu très dépendant de compétences qu'on a de la misère à avoir, mais qui est nécessaire. Ce qu'on appelle dans les entreprises les fameux postes clés. C'est bien le fun quand la compétence provient d'un consultant, d'un fournisseur, mais ça prend un transfert de données. Pour revenir au copier-coller, c'était pas juste un jeu de mots. C'est les faiblesses qui ont été soulevées pendant certaines conférences où on a vu des affaires spectaculaires. Comment faire des copier-coller sur SharePoint, soit à partir d'une ligne de commande, à partir de Teams, et ça passait même sous le radar de l'engin de journalisation.
Celle-là est excellente. Ben oui, ça, c'est utiliser l'outil de migration SharePoint, puis que cet outil-là contourne toutes les journalisations standards. Fait qu'on est capable d'injecter essentiellement du stock sans que personne puisse le savoir. Puis la réponse, parce que ce qui a été dit dans la présentation de la réponse de Microsoft, ça a été « Ouais, non, mais il y a juste des admins avec tant de pouvoir qui sont capables de le faire. » Ouais, mais... Puis tes racines d'auditeurs vont me dire « Ouais, mais même s'il faut le pouvoir, on est supposé faire confiance. » Non, on veut des logs pareils de ce qu'ils font les utilisateurs avec pouvoir parce qu'on ne sait pas de coup qu'ils virent un peu sur le top à un moment donné. Il se passe quelque chose de pas bien dans sa vie, puis pouf, il commence à faire ça. Tu veux quand même pouvoir tracer ce qu'il fait, puis ça, pour moi, c'est mal. Là.
On ne dit pas que c'est facile. Ce qu'on a vu, c'est pas facile à faire, là, mais c'est quelqu'un qui s'est positionné puis qui a décortiqué le fonctionnement de l'outil de migration SharePoint. Puis lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a manuellement créé des scripts en contournant justement la fameuse chaîne d'approvisionnement du fonctionnement de l'outil de migration pour justement atteindre son profit directement, pour se rendre compte que l'engin de journalisation, il ne voyait absolument rien. Là, on parle d'introduction de données fictives, on parle de destruction, on parle de même remplacement de fichiers. J'ai pas vu de pompage de données, par contre, mais déjà de la création de données, c'est terminé. L'engin de log n'est plus là. Les contrôles de sécurité sont plus là. Donc, je suis désolé. Mon rôle d'auditeur va vous dire, ah, c'est fini. L'intégrité est cassée.
Oui, complètement. Mais de toute façon, puis pour en avoir fait des mandats dans le temps que j'ai travaillé pour les comptables, justement, l'intégrité est vérifiée. Après, en fait, donc on déplace, dans ce cas-ci, on aurait déplacé un SharePoint avec des données financières. S'il n'y avait pas de journaux de conversion, c'est un no-go. Tu ne peux pas autoriser ça. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas de preuve de l'intégrité du chemin entre les deux. Même si c'est une personne autorisée qui le fait. Mais dans certains cas, puis pour avoir vu des migrations de choses sur site vers l'info nuagique, par exemple, c'est généralement donné à contrat à des tiers en plus, qui on ne peut pas nécessairement garantir avec le même niveau de certitude qu'ils vont faire autant attention aux données de l'organisation. Donc, tu sais, c'est de mettre dans les mains des gens de ce genre de transition-là, puis il l'expliquait, puis c'est fou parce que tu étais capable d'injecter des affaires, tu étais capable d'injecter partout. Tu étais là de modifier des fichiers dans SharePoint pour faire du cross-site scripting. Tu étais capable de faire des affaires, c'est complètement malade ce que tu étais capable de pousser à travers cette conversation-là. Fait que l'outil est ultra puissant. Cependant, il n'y a pas les contrôles auxquels on pourrait s'attendre de contre-vérification. Parce que tu sais, tu arrives à une conversion, il y a des données financières, le vérificateur va dire « Je veux les journaux, je veux voir. Je vais te voir si ces données étaient avant de signer que c'est comme ça. » Ils vont peut-être faire un 25. Non, ils ne font plus de 25, ça n'existe plus, je pense. Mais bref, ils vont vouloir avoir un niveau d'assurance élevé d'intégrité.
Je vous confirme, j'ai déjà fait ça chez un client où toutes les données puis les rapports de conversion ont été supprimés. La seule affaire, c'est que ça a été du travail manuel. Ça a été beaucoup plus long. On est parti avec des BV papier et les honoraires aussi. C'est pas compliqué. Quand le Big Four dit au client qu'il ne signera pas les états financiers à cause de tel risque, telle situation, j'ai dit, on présente en fait ce qu'on appelle des travaux spéciaux. Ça se fait, ça se fait, mais ça coûte cher. Surtout quand tout ce que l'auditeur a besoin de voir, c'est copy completed successfully. Vous riez ici, là, mais de voir ça, quand je vois la commande, puis quand je vois ce qui a été, quand je vois la méthodologie, je dis pas que c'est satisfaisant, je caricature ici, mais ultimement, c'est ça que j'ai envie de voir, là. C'est OK, c'est fait sans erreur. la démarche et la métaux sont acceptables, etc. Alors, on ne s'éternisera pas ces conversions de données. C'est des mandats qui sont plates, c'est long, c'est pénible pour tout le monde.
Oui, oui, tout à fait, mais c'est de voir que la puissance qui était associée à ce genre de choses-là, c'était assez impressionnant ce qu'on était capable d'en tirer, de ce qu'on était capable d'arriver avec ce genre de choses-là. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, quand tu parles du copier-coller, c'est les premières conférences, celle des containers pour contourner la création de fichiers sur Windows. Là, on parle de l'usage des moyens légitimes, là, le Living of the Land, là, les LOL, puis qui permettent justement de contourner tout, fait qu'ils étaient capables de bypasser tous les engins de vérification par l'usage de certains moyens qui passaient en dessous des hooks que les EDR, entre autres, utilisent pour détecter. Des différentes choses. Fait que c'est fascinant. On est encore dans un univers de choses comme ça. Puis on a encore les moyens faciles pour les attaquants de réussir à nous faire du mal, justement, en venant chercher des choses aussi simples que ça dans les systèmes. Puis de faire un rançon logiciel, lui, c'est ça le setup. Là.
Mais dans tout ça, là, c'est. Encore là, en amont, c'est. On a le même problème sur de la nouvelle technologie. Puis, comportement, on l'a dit tantôt, mais au niveau du comportement des mauvaises personnes, c'est pas compliqué. Amener une nouvelle technologie, puis c'est pas compliqué, il y a déjà plein de monde qui sont en train de voir si les bons vieux trucs fonctionnent. Puis, savez-vous quoi? Ils sont de plus en plus tenaces pour creuser davantage quand ça marche pas. Puis ce qu'on a vu, Nicolas puis moi, là, hey, forger des clés pour que le certificat réponde avec un crochet vert, récupérer des bouts de clés puis les combler des certificats pour les rendre, avoir un hack valide en forgeant quelques bits de... Hey, c'était, ce qu'on a vu, c'est... Ils vont aller jusque-là, là, les personnes malveillantes, puis ils vont finir par les scraper. Beaucoup de cryptos sont invoqués depuis quelques années maintenant, mais c'est rendu que les sont rendus très à l'aise pour comprendre justement la chaîne d'appro, la création du hack, l'utilisation de la key, du déchiffrement. Ils comprennent. Fait que quand je dis qu'ils sont tenaces, parce qu'ils vont se prendre un 5, 10, 15 minutes de plus, puis du temps machine, on ne sait pas combien de temps, peu importe, mais ils ont déjà tout de suite, parce que la recette n'est pas longue à bâtir pour eux autres, pour aller plus loin et réussir l'exploit.
Oui, tout à fait, puis tu fais référence entre autres aux choses pour les cartes de transport en commun, tu es capable de forger des affaires puis de tricher. Le dude qui a présenté ça, c'était super cher, parce que justement, il nous avait amené dans sa démarche, puis c'est un jeune chercheur, puis je trouve ça bien que des jeunes chercheurs puissent justement amener des nouvelles affaires comme
puis
ça.
Puis le transport en commun, ça coûte cher, fait qu'il a décidé un jour, ça ne me tente plus de payer si je peux le sauver là, il y a-tu quelque chose que je peux exploiter?
Oui, fait qu'il a réussi à trouver des moyens, puis justement, tu parlais d'éléments de crypto ou l'absence d'éléments de crypto, mais c'est exactement comme ça qu'il a démontré, ou la dernière conférence avec les Taki Tetra, qui dans le fond, effectivement... Ça a été, bon, mon cerveau un peu mal de faire parler de crypto comme ça. C'est pas mon univers à moi, mais démontrer à quel point il y a eu des raccourcis qui ont été utilisés à travers le temps, puis qu'il n'y a jamais, en théorie, il n'y aurait jamais personne qui les aurait utilisés, ce qui est tant qu'à moi complètement faux. J'ai l'impression que les attaquants étatiques les ont utilisés, ces affaires-là. Puis probablement que tout le monde s'insomore puis personne n'en parle. Et étrangement, c'est peu utilisé aux États-Unis, mais c'est très utilisé en Europe. Fait que, il y a des choses de la vie comme ça que, tu sais, je pense pas qu'il y ait des hasards. Fait que j'ai bien l'impression que les Américains étaient au courant de ce problème-là il y a déjà très longtemps, mais ils ont tenu ça mort parce que ça leur permettait probablement d'accéder à des... À de l'information privilégiée quand il y avait besoin d'intervenir dans différents éléments. La Russie utilise cette technologie-là. Fait que, tu sais, en même temps, puis ils ont les moyens beaucoup plus puissants que les trois d'autres qui étaient très bons de ça. T'sais, les autres ont les États-Unis, s'ils veulent passer à travers, ils ont des millions de dollars à mettre là-dedans. Les autres, c'était.
Ben, malheureusement, dans leur présentation, deux manifestes que Snowden avait publiés des services secrets américains qui faisaient état de déjà plusieurs années. Hey! On le sait, Hein, on ne dira pas on a réussi. On va tout simplement dire, on le sait, deux beaux manifestes, clairement identifié Snowden. Puis, les jeunes sont partis sur un domaine extrêmement complexe, à mon avis, parce qu'ils ont été capables de faire, puis de forger aussi dans le système télécom, le système radio, t'as capoté.
Oui, bien là, toute la démarche, parce que c'est ça qu'ils sont venus présenter, c'est tout l'ensemble de leur démarche. Puis derrière, il y a des CVE qui ont obtenu à travers ça, puis c'est quand même assez spectaculaire. C'est la qualité de la recherche, elle est très, très intéressante. Mais on revient dans un contexte où ils ont ramené dans l'espace public des choses qui étaient probablement connues par les services de renseignement, probablement américains, depuis déjà très longtemps. Alors, c'est sûr qu'ils ont dû faire la même chose avec des moyens beaucoup plus grands que ces trois doudes-là, mais de démontrer ce genre de choses-là, c'est important. Puis moi, ce que je retiens, puis je trouve ça un peu troublant qu'encore en 2023, l'organisation responsable de Tetra, puis je comprends qu'ils veulent calmer le jeu, mais en même temps, qu'elle laissait un standard aussi utilisé que ça dans des contextes qui sont critiques dans certains cas, sans avoir vérifié plus que ça la technologie sous-jacente, je trouve ça troublant. Et les réponses me font penser à beaucoup ce qu'on voyait au début des années 2000. Ah non, c'est pas grave, on le fera pas. Mais tu as un système de sécurité publique dans les mains que finalement, c'est de la négligence par l'ignorance. Dans le genre.
Ils ont été très polis dans leur démarche pour présenter la preuve de concept parce qu'ils en ont présenté une, ils en ont fait une deuxième. Ah, petite parenthèse ici. ils ont fait ça avec des appareils un peu plus sophistiqués, mais ils sont fait challenger à un moment donné avec un Toshiba satellite 40-10, là. Puis c'est ça qui a été très drôle. Ça a pris une trentaine d'heures avec un Windows 95. On a eu un beau moment de nostalgie là-dessus. Hey, le script a marché! Ils ont récupéré la clé de le certificat qui a été émis sur l'appareil qu'ils ont ciblé. Puis il était en business là, après ça, il pouvait forger puis faire n'importe quoi là. C'était bien drôle.
Ah, c'est assez fou, puis c'est de la recherche fondamentale que je trouve très intéressante et très pertinente et qui aurait dû être faite sur ces équipements-là bien avant. Puis justement, qu'on ne se ramasse pas avec un peu la situation dans laquelle on est là, où ça peut être problématique à bien des égards. Puis ça, c'est un des axes qu'il avait montré parce que c'est clairement utilisé dans des automates d'industriels. Et des sons, des choses comme ça. Puis quand on regarde comment les attaques se font maintenant au niveau des États, si on regarde la guerre en Ukraine au moment où on enregistre, c'est le genre de choses qui peuvent être utilisées contre tes adversaires, le pénaliser, envoyer des mauvaises informations. On fait juste à repenser à tous les éléments qui ont été faits sur l'enrichissement nucléaire en Iran, dans lequel ils ont réussi à mélanger les centrifugeuses en changeant le code. Donc, tu sais, c'est tous ces éléments-là sont très, très existants dans l'univers plus sophistiqué. Donc, c'est peut-être un peu mettre sa tête dans le sable d'avoir fait ça. Puis, c'est tant qu'à moi, je pense que l'organisation devait dormir sur ces problèmes-là parce que ça devait être trop, trop problématique de déclarer. Mais il reste en même temps que c'est fascinant parce que quand la façon qu'ils ont procédé, puis j'ai adoré, là, parce qu'ils ont rentré, ils ont acheté un radio qui était quand même assez moderne, par ailleurs. Et le code qui roulait dans ce radio-là était vulnérable à tellement d'affaires, encore de nos jours. Fait clairement, il n'y a personne qui a remis à jour le code depuis genre 25 ans. Là, que aucune pratique de sécurité moderne n'a été incluse dans le code. C'est juste malade. Là.
Juste dans la chaîne de com, l'initiation d'une première communication, l'exemple qu'ils ont utilisé, c'est le courriel. Zéro authentification parce qu'il faut que le courriel arrive. Puis ensuite de ça, quand on vient travailler avec le courriel pour l'ouvrir, là, le mécanisme d'authentification et de chiffrement commence à s'activer. C'est juste le premier bout où tout passe comme pour l'équivalent d'être en classe. C'était fascinant, là. Oh oui, c'était fascinant. Ils l'ont expliqué. Vous vendez ça depuis 25 ans. Votre OS semble pas avoir subi de grands changements depuis ce temps-là. Puis on s'est rendu compte que ces appareils-là, depuis 4-5 ans, c'est des milliers qui ont été achetés. Donc, l'appareil qu'ils ont acheté a 25 ans. Puis, il y a des vulnérabilités. Ils ont trouvé une porte dérobée aussi qui était pas chic non plus là. C'était un petit peu capoté. Puis ce que Nicolas disait, on parlait des infrastructures critiques là. Il a parlé de l'uranium enrichi. On parle de systèmes de pompage d'huile dans certains pays qui utilisent justement l'huile et le gaz pour l'énergie à la maison. Les systèmes hydroélectriques. Bon, le Canada semble pas n'utiliser ni le Québec. Et encore là, je le sais pas, mais on n'était pas sur la map. Mais ça fait et la facilité de s'installer dans un endroit très tranquille pour amorcer justement le piratage est d'une facilité déconcertante, là.
Oui, parce que c'est des choses passives, fait que il n'y a aucun moyen de détecter que les choses sont en train de se passer. Puis il n'est pas dit que les conversations n'ont pas été enregistrées. Eh bien, la conversation chiffrée, enregistrée, puis ensuite, quand ils ont eu le temps de décoder, ils ont pu la déchiffrer après. Bref, c'est assez troublant. Puis ça fait partie des quand même des divulgations qui sont quand même assez impressionnantes. On va arrêter de trapper sur celle-là. Je suis en train de regarder un peu sur les conférences qu'on est allé voir. Il y avait celle justement avec le dude qui est allé réattaquer les serveurs de command and control des différents rançons logiciels. Je trouve ça, c'est complètement malade. Le dude, puis lui, c'est son but sans vie, c'est pas de se faire embarquer dans une vanne noire, là, mais il joue un peu avec le feu au sens où il vient s'attaquer aux infrastructures des criminels et les casser essentiellement, puis prendre le contrôle des différentes consoles. C'est assez malade ce qu'il fait parce que, on dit OK, c'est pas une sémantique parce que normalement, tu n'aurais pas supposé faire ça, mais en même temps, ça, son cheminement est quand même intéressant parce que il cherche pas, il joue pas le chevalier blanc, puis ça, c'est parfait dans ce contexte-là. Il n'empêche pas les forces de l'ordre de venir s'attaquer à ce genre de choses-là. Donc, il permet de remonter, de donner l'information, puis ensuite, il renvoie la police, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Fait que on aide, parce que lui aide à démanteler ces réseaux-là qui sont tout à fait désagréables.
Comme je disais à Nicolas tantôt, je dis, si les gens de ces réseaux criminels-là ont assisté à sa conférence, ben là, ils savent, ils mettent le visage sur le clown qui est devenu admin dans leur console, justement, de Command and Control. Là. C'était bien comique.
Ouais, ben c'est ça qu'il faisait à chaque fois. Fait que c'est très drôle de le voir comment il allait faire ça. Bref, c'était une présentation très comique. C'était très intéressant. Puis je vais faire dans le fond un rebond sur la présentation d'Olivier et Andréane qui avaient fait un preview au Sécure de leur présentation qu'ils ont faite là. Fait que j'étais déjà un peu au courant de la nature de leurs travaux. Puis c'est top-notch. Puis c'est un peu aussi dans l'état de la démarche, là, qu'est-ce qu'il faisait, c'était justement d'aider la police à mettre fin à ce genre de problème-là généralisé de malveillants, de groupes criminalisés qui font ce genre de choses-là. Les autres, puis leur présentation, c'était aussi très drôle. Les autres utilisaient les choses de Donjons Dragons pour colorer un peu le style de leur présentation. Et ils ont qualifié différents types d'attaquants qui, dans l'état de leur recherche, étaient très étonnés que c'était très manuel. Ils pensaient que du RDP était beaucoup utilisé de façon mécanique, c'est très manuel. Et c'était différents types de personnages qu'ils mettaient, puis c'était très, très comique, du très pas sophistiqué qui veut juste revendre du porn comme genre, il y avait un dude quand nous on était au secondaire qui lui avait un graveur CD puis l'accès à une affaire comme ça puis il vendait des CD gravés de porn quand on était au secondaire. Ben maintenant, ben c'est ce même genre de choses qui se fait, mais dans des pays où c'est censuré et tout, mais encore là, c'est ce genre de petite monétisation de cours d'école, un peu avec le petit truand, le petit bum, là, un peu à la Stranger Things, là, tu sais, ce qu'il y avait, ce genre de choses-là.
Ah oh ouais, Donjons et Dragons, c'est pas le seul thème Donjons et Dragons qu'on a vu, puis c'était bien coloré. Mario Bros également, la cote ces temps-ci, là. Nos trois dudes, là, comme on parlait tantôt, puis oui. Je vais faire une parenthèse sur l'équipement Tetra, là. C'était vraiment Super Mario Bros 3, là, où t'avais le premier niveau de tableau avant de te rendre au château. C'était très bien imagé, la nostalgie est excellente, là. C'était très bon cette année.
Ben, tout à fait. Puis ça, c'est on est un peu dans la nostalgie. Mais cela étant, c'est pour nous, En tout cas, du fait que ça fait longtemps que j'assiste à des conférences, cette espèce de degré d'humour-là ou ce genre de d'imagerie-là aide à faire passer le message. Puis les conférences dans lesquelles il était un peu moins, ça a été un petit peu plus hardcore de réussir à capter le message ou à faire, tu sais, faut que tu sois plus concentré, disons, pour réussir à suivre la conférence. Fait que c'était le fun, ça, entre autres, comme ce que Olivier et Andréane ont fait avec Donjons Dragons, puis comment ils ont personnifié les différents types d'attaques, puis la façon qu'ils ont montré ça, montré les outils que ces attaquants-là utilisent, qui montraient toute cette structure-là, cette espèce de regard, comme d'avoir levé la roche puis regarder les bébés s'en aller, là. Fait de regarder ce genre de choses-là, fait que de les voir, très intéressant d'avoir pu se partager ce type de recherche-là, puis d'ailleurs qu'il y a du financement pour faire ce type de recherche-là, c'est très intéressant justement, puis ça vient aider. Puis d'ailleurs, c'était là où je rebondis sur le gars qui attaquait les C2. C'était dans un objectif justement de démanteler. Puis c'est pour ça qu'ils ont rendu le code ouvert, ils ont ouvert leurs affaires pour que si d'autres gens veulent le faire, veulent rechercher, si des corps de police veulent s'intéresser à ça et intervenir, c'est très intéressant. Là. Puis ça, je trouve ça très bien, cette espèce de contribution de redonner pour aider à un monde meilleur, parce que c'est vraiment une fucking plaie, là, ces malveillants-là. Là.
Également, ce que lui a soulevé, là, le dernier, je ne prononcerai pas son nom, mais celui qui piratait justement les pirates, c'est encore les bons vieux outils qu'ils utilisent pour justement avoir des instances sur des infrastructures pour les piller ou pour faire toutes sortes de choses. C'est il y a certains éléments, oui, plus sophistiqués, mais il nommait un petit peu des ranges de prix parce qu'il expliquait un peu le produit du malfaiteur, le groupe de malfaiteurs probablement qui crée ce produit-là, le range de prix, à peu près le en dollars, ce que ce produit-là, puis on ne parle pas d'un groupe en particulier, mais ce produit-là, avec sa propagation, le prix que ça coûte pour les malfaiteurs, et puis les revenus qui ont été faits au noir là-dessus, il y a certains outils, 2,2 milliards pour un, avec une facilité d'acquisition, d'installation parfaite, mais c'est de voir, une fois qu'ils piratait ces outils-là, un petit peu le fonctionnement, qu'est-ce qu'ils voyaient à l'interne, il n'y avait pas de grande magie ou d'éléments hautement sophistiqués, il y avait des choses qui dataient, mais encore là, c'est quoi le message? On ne fait pas attention à bien barrer nos portes dans nos systèmes parce qu'ils utilisent encore des bonnes vieilles méthodes qui traversent justement les mailles du filet.
Oui, mais on revenait, puis c'est un peu dans les conversations qu'on a à côté au niveau de l'hygiène numérique et tout ce que ça comporte, justement, ça exige ce genre de choses-là. Fait que ça nous permet, nous autres, de peut-être nous remettre en pleine face qu'on... globalement, on a beaucoup de problèmes d'hygiène numérique ou d'hygiène de cybersécurité. Qui nous amène dans des situations qui sont tout à fait épouvantables. Moi, si ces gens-là faisaient des ponts, moi, je ne prendrais pas ces ponts-là. Je disais, oublie ça. Oui, puis de traiter, ah non, mais c'est pas grave si la boîte, elle ne tient pas le pont. Il va juste chambraler un peu. Je disais, non, mais moi, je veux pas une réponse comme ça quand je prends un pont. Là. Moi, je veux que les boîtes soient vérifiées de façon régulière. Je veux que la structure soit vérifiée de façon régulière. Je veux que la construction respecte les normes aussi, puis qu'elle soit capable de supporter. Puis c'est une dégradation. Puis. C'est un sujet au Québec est très présent et à Québec encore plus. Bien, cette dégradation-là est accélérée par X facteurs, mais que ça soit réparé en conséquence justement pour redresser la situation de façon sécuritaire. Au niveau sûreté, tu veux dire, là, on a des vies humaines, là, c'est encore pire. Fait que, moi, ces gens-là, cette façon d'aborder avec un peu trop de désinvolture la cybersécurité, ça commence à m'énerver beaucoup parce que ça commence à avoir des conséquences sur la sécurité des gens. Même les affaires de Tetra, tu sais, la sécurité aéroportuaire, c'est ça qu'ils utilisent. Fait que, tu sais, là, on a potentiellement, on met en danger des gens qui servent à la sécurité des aéroports. Fait que, moi, je suis pas super confortable avec cette façon de retirer ça. Là. Fait que j'espère que les gens vont mettre leur culotte un peu parce que on est sur le point d'un désastre, à mon avis, ce genre de choses-là.
Ben, en fait, on est face à un indicateur de désuétude, tout simplement. entretien, maintenance, évolution. Tu l'as bien mentionné, là, on barre nos portes, c'est le fun, on change nos clés, on rajoute un système électronique, une caméra, un ours, un parabear en arrière. Mais des fois, on se fait taper ses doigts parce qu'on veut débrancher un vieux système, mais il y a des gens d'autorité qui veulent qu'on le garde. Puis, c'est un vieux système, les portes se barrent plus, vous comprenez où je veux en venir. Ça va être la faiblesse dans ça va être le maillon faible, puis pouf, c'est brisé.
Oui, c'est des problèmes qui n'attendent que d'arriver parce que les attaquants, eux, n'ont pas de sentiment pour nos choses. Fait que s'ils ont à nous piller, ils vont le faire. Si votre système n'a pas été encore cassé, c'est bien juste parce que vous avez passé sous le radar. Mais considérez pas que c'est bien comme ça parce que c'est tôt ou tard, ils vont venir à vous rattraper. Puis, c'est un rappel qu'au Québec, le 22 septembre 2023, la seconde phase de la loi 25 rentre en action. Et dans le fond, c'est le plus gros morceau de la loi qui rentre en action. Puis là, il n'y aura plus beaucoup de permis, il n'y aura plus beaucoup d'espace pour cette forme d'insouciance de traiter ça. Parce que là, le législateur a les moyens, ou en tout cas, va attraper l'exécutif, vont venir vous taper dessus si vous n'avez pas respecté. Vous faites un incident, vous ne le rapportez pas. Les amendes sont très, très violentes d'ailleurs. Donc, il y a moins d'espace à improviser sur ce genre de choses-là. Pour ce qui s'en vient, mettons. Là. Mais pour revenir sur des copier-coller, c'est vrai, bon, tu as parlé de ta crypto tantôt. Azure B2C, ça a été très intéressant de voir ce qu'il avait fait avec ça, comment il avait réussi à casser le chiffrement. Ça, c'était un peu plus sophistiqué, là. Ça demandait un peu plus d'habilité. Fait que c'est pas ça, mais encore là, ça revient toujours à la réponse de Microsoft. Je sais pas dans ce cas-ci si c'est légitime ou pas, mais de voir, non, c'est pas si grave que ça. Puis machin, mais c'est quand même un système important au niveau de l'identité numérique là, chez Microsoft. Là.
Ah oui, puis il va mettre une opinion là-dessus. Le chiffrement de la crypto s'est rendu très, très présent, mais ceux qui font des présentations, moi, je vous le recommande fortement, osez beaucoup d'humour, beaucoup de figures de style, des petits dessins des fois qui valent 1000 mots, c'est pas que c'est plate, mais c'est parce que c'est pas un domaine qui est souvent facile à comprendre. Le type certificat, le type clé, le privé, le synchrone, le public, l'acknowledge, c'est pas facile. Et puis écoutez, gênez-vous pas à mettre un peu d'impro puis beaucoup d'humour dans vos présentations. Ça va être bien plus agréable pour tout le monde. Vous allez avoir bien plus de fun.
Oui, tout à fait. Ouais, ça, c'est les volets. Puis il y en a eu plusieurs présentations qui ont abordé des volets de crypto qui étaient assez complexes. Puis c'est pas mon domaine. Là. C'est vraiment pas mon domaine. Fait que je connais les grandes notions, mais quand on rentre dans du pointu comme eux, ce qu'on fait, j'ai un peu mal à la tête. Je suis un peu fatigué après leur présentation. De devoir me concentrer justement s'ils peuvent faciliter un peu la compréhension par rapport à ça, ça serait très intéressant. Dans les autres présentations qu'on a vues, defeating le VPN Always On, ça c'était très intéressant de voir que par des stratégies, puis la manœuvre, dans le fond, l'objectif de la présentation en question, c'était vraiment de sortir du Always On dans le sens où l'organisation a une capacité de te surveiller en tout moment et de comment faire que ton organisation ne te surveille plus parce que tout ne passe plus par le VPN à ce moment-là, qui ne contrôle plus les actions de ton poste. J'ai vu ça déployé à plusieurs places, pas dans une optique comme celle-là, mais bon, bref, un peu comme ça. Puis c'est très intéressant de voir à quel point c'est des stratégies très faciles pour réussir à faire que le VPN ne lève pas. Et c'était même possible de réécrire les règles de firewall pour justement te redonner accès, parce que c'est un peu ça qui fonctionne avec les Always On. Tant que tu n'es pas branché, tu ne peux rien faire. Fait que là, soit ils simulaient que tu étais sur le réseau interne, donc pouf, toutes les règles ouvraient, puis comme si tu étais sur le réseau interne. Puis j'étais un peu fasciné, puis il y en a parlé de. Parce que je connais pas particulièrement les trois technologies qu'il a abordées. Moi, j'étais plus habitué avec de façon théorique, puis je ne l'ai pas vu en vrai. La version de Microsoft de ça, puis la version de Microsoft, la vérification était appuyée sur la présence d'un serveur qui était défini, si je ne me trompe pas, là, puis lancez-moi des tomates si je me trompe, Fait que je trouvais ça beaucoup plus robuste comme approche que d'arriver avec juste une vérification de flag dans le DHCP ou la présence d'un DNS ou tu sais, c'est des choses qui sont très très faibles et très faciles à spoofer. Là. Fait que c'était très facile. Si vous vouliez sortir, faire fuiter de l'information de votre organisation, ça devenait très facile parce que ça, mais c'est pour les gens qui sont plus malveillants, mais en même temps que l'organisation met ça en place justement pour empêcher que les employés fuient de l'information, j'imagine que si le mécanisme n'est pas efficace. On va pas super loin avec ça, là. Fait que...
C'est le bout où t'as dû me prendre en photo, puis...
Ah, tu dormais?
J'avais un bon respire très calme à ce moment-là.
Où hein. Tu l'as dormi, mais, celle-là?
Je me souviens du début où il a simulé son flag, puis il était parti du radar, mais c'était excellent, là.
Tout à fait, très intéressant. L'autre aussi qu'on avait vu sur les Mac avec Electron, qui est une stratégie utilisée, c'était très intéressant de voir à quel point on pouvait réutiliser les permissions données sur Electron. C'était que tel. Ça, de toute façon, c'était pas une très grosse présentation. Mais justement, de voir à quel point on peut piggybacker sur des droits. Là, en exemple, de copier-coller, mais on réutilise une application pour réussir à utiliser ses droits à elle pour dépasser ce qui est permis sur le système. Là. Fait que ça. Puis il y avait un autre aussi sur le Mac qu'on avait vu. Là. J'ai un blanc. Whatever, j'ai un blanc, mais...
J'en ai un aussi.
Toi aussi, t'as un blanc. Bon, ça, c'est terrible, ça, là.
Ah, puis on a vu du Amiga.
Oui, hey, c'est vrai. Oui, aujourd'hui, on avait une présentation sur du rétro hacking. Là.
Ouais, la présentation super le fun, puis c'est un monsieur très très enthousiaste là-dessus parce que il y a lui son approche c'est que détrompe-moi là je donne pas bonne info, je pense que archive.org entre autres, on peut trouver des émulateurs d'Amiga justement avec des bons vieux logiciels. Et puis, c'est du code complètement ouvert. Puis, pour s'approprier et apprendre justement comment interagir de façon soit bienveillante ou malveillante, mais directement avec l'espace de travail de la machine, que ce soit la mémoire X, Y, Z, etc., pour de l'exécution bonne ou mauvaise. Les principes sont beaucoup plus simple à comprendre. Puis si on veut les répliquer maintenant avec nos nouvelles architectures qui sont beaucoup plus complexes, ben ça nous permet justement une chaîne d'apprentissage qui nous permet justement d'arriver sur des systèmes plus récents, plus complexes, puis de comprendre justement les manœuvres qu'on veut faire. Monsieur était très enthousiaste là-dessus. Puis c'est une belle petite école de pensée. Puis pour les nostalgiques, ça ramène aussi dans le passé. Il y a beaucoup de trucs qui sont gratuits puis faciles à avoir. Puis ça amène des sourires puis le bonheur.
Ouais, ben c'est ça pour les vieux comme nous autres. Mais lui, il utilisait ça comme un outil d'apprentissage aussi. Puis j'aimerais ça pour un retour aux bases parce que justement, comme tu es dans un environnement simple de maîtrise, tu es capable à ce moment-là de pouvoir tester des vieilles affaires puis de jouer de façon plus libre. Puis une de ses prémices, c'était justement parce que ces gens-là, ben, on ne sera pas poursuivis parce que c'est des systèmes qui n'existent plus, ne sont plus utilisés maintenant. Fait qu'il n'y a pas de danger légal ou des dangers légaux associés à cette situation-là. Quitte à même essayer de contacter la personne qui a écrit le logiciel pour jaser avec elle, pas dans une perspective de dire « Ah, tu t'es trompé », mais d'apprendre de ce qu'elle a fait, parce qu'il y a énormément de lignes de code qui ont été faites dans ces années-là qui sont, à toute fin pratique, disparues. Puis ça m'a rappelé un peu des éléments comme ça. Puis c'est très intéressant parce que c'est vraiment, pour ma perception, c'est par la maîtrise des bases, c'est là que tu es capable de maîtriser des systèmes complexes. Si tu essaies de maîtriser un système complexe avant de maîtriser les bases, ben t'as des chances de rusher un peu ou de pas tout voir ce que tu devrais avoir. C'est un peu l'avantage des vieux comme nous, c'est parce qu'on a connu les anciens systèmes. Les jeunes n'ont pas eu... les jeunes. C'est comme si j'avais 300 ans. Ceux qui débutent en carrière n'ont pas eu tous ces éléments-là d'apprentissage qui précèdent. Donc, sur toute la façon qu'on a construit les systèmes technologiques, comment la cyber s'est construite, d'où on arrive et pourquoi on est comme là, mais les autres l'ont pas vécu. Fait que c'est une belle façon de pour eux d'aller chercher retrouver les bases, puis ça m'a rappelé les souvenirs, puis ça me donne le goût de retoucher un peu à ça. Ça fait un bail, je ne l'ai pas fait, là, puis c'est juste comme me dérouiller un peu, puis aller retoucher avec les bases.
Puis pour nos jeunes, ça amène un degré de facilité sur l'apprentissage et la compréhension, parce que quand ils arrivent sur les systèmes un peu plus complexes, intuitivement, ils vont comprendre les fameuses manipulations, ils vont comprendre ce qu'ils sont en train de faire quand ils vont interroger. Puis dialoguer avec la mémoire interne, la mémoire paginée, le processeur, la carte graphique, peu importe. Là, c'est à l'époque, on appelait ça du langage machine ou de l'assembleur. On allait dialoguer directement avec les composantes mécaniques. Alors, c'était le fun.
Ouais, ben ça permet ce genre de choses. C'est très, très intéressant. Dernière conférence qu'on a vue. En tout cas, bref, on remélange un peu tout. On remixe ce qu'on a vu. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'aller dans ce genre de choses-là, parce qu'on est capable de remixer l'ensemble de ce qu'on a vu et de faire que la somme est plus grande que les parties. Donc, on en tire. L'autre, c'est les clés privées dans des endroits publics. C'est très intéressant parce que ce dude-là, je pense que c'est pendant le confinement ou un peu avant le confinement qu'il a commencé ça. Il a commencé à chercher la présence de clés privées dans des codes ou dans des repos, dans des choses comme ça. Puis on a trouvé à des endroits très étranges que dans certains repos publics ou dans certaines images qui sont données, il y a des clés privées de fournisseurs ou d'éléments qui sont incluses et qui permettent, dans le fond, nécessairement de reprendre le contrôle soit du fournisseur ou soit à l'interne de ce genre de choses-là. Donc, l'un des exemples qu'il a donné, c'était Fortinet, entre autres, qui avait donné le fait que la clé privée de Fortinet était incluse dans l'image qui venait avec. Ce qui est corrigé maintenant, c'est que soit on peut en parler. Mais il y avait d'autres éléments comme ça, que ces clés-là qui traînaient. Il avait commencé, je pense, avec Netgear aussi, qui était comme ça, la clé était là. Cette clé-là, finalement, donnait un accès tout à fait démesuré par rapport à ce qui aurait été dû normalement. Fait qu'un panoplie de petites choses comme ça. Puis c'est des erreurs d'architecture. Fait que tu sais, c'est très, très fascinant. Puis ce regard-là, je trouve ça intéressant parce que si c'est des erreurs d'architecture, donc qui sont beaucoup plus longues à corriger pour ces fabricants, ça revenait souvent à ça aussi dans certains nombres. Il y avait, je pense, Azure B2EC. Je pense dans ce cas-ci aussi, le bug qui avait été trouvé, c'est un bug d'architecture, ce qui fait que tu dois redesigner, donc refaire tes choses comme ça. Puis moi, je trouve ça un peu fascinant de qu'on retrouve encore ce genre de choses-là parce que on se retrouve à ne pas avoir réfléchi correctement. Puis moi, j'arrive plus du top-down, c'est cette structure du haut vers le bas, ce qui fait que le code qui est fait par les personnes sur le terrain est nécessairement mieux encadré parce qu'il y est réfléchi. Donc, architecture comme du monde, on ne fait pas genre, on ne construit pas des choses au hasard, comme de toute apparence ça a été fait. Puis pour moi, une revue d'architecture, et généralement, la première étape, là, que le pen test, c'est juste pour donner un coup de pied sur les pneus, qui est fort nécessaire dans bien des cas, mais on vient juste donner les coups de pied sur les pneus après que tout le travail précède. Mais clairement, il n'y a pas tant de travail d'architecture qui est fait en amont. Là. En tout cas, pas sérieusement, là, dans ce cas-ci, clairement. Là.
C'est ce qu'on appelle la conception mise en œuvre. Tu te souviens de ça, hein? Fail by design aussi, là. Puis oui, tu as raison, des troubles d'architecture, c'est vrai que c'est plus long quand tu dois revoir ta planification, ta conception. Puis des fois, ça amène des changements qui sont majeurs. Mais tu sais, l'autre petit terme que j'ai entendu aujourd'hui que je trouvais bien plaisant, là, la sécurité par l'obscurcissement, là, tu sais, que le développeur dise, ils ne sauront pas que les 32 caractères ici, c'est le certificat ou la clé dans le code, là. On va le mettre sur le collant en arrière de la boîte aussi, là, en dessous du Netgear. Non, c'est... Là, 25 ans, je peux comprendre, là. C'était pas des notions très, très d'actualité, mais c'était en termes de design, c'était pas un bon plan, là.
Ouais, c'est un raccourci qui a été pris quelque part, là, et puis effectivement, tu peux pas juste comme balayer en dessous du tapis comme c'est fait là. C'est un peu... Ça, c'est un peu troublant, mais bon. C'est vrai, parce que cette présentation, ça fait longtemps que je n'avais pas vu les précieux de Kachkov qui étaient genre rien ne doit être caché, tout doit être en public sauf la clé de chiffrement, finalement. Fait que non, j'avais trouvé ça très intéressant qu'ils ramènent ces concepts-là parce que c'est toujours comme ça. Fait que si ton système n'est pas suffisamment robuste pour être scruté par des gens extérieurs, comme ce que les autres ont, ça vient de se passer, on a un problème. Là. Puis, il y a beaucoup des systèmes qui ont été démontrés comme ça pendant les 3 jours qui ne sont pas tout à fait suffisamment robustes pour être scrutés par des gens trop curieux. Là. Puis on revient encore, puis c'est encore des affaires comme les premières années que je suis venu ici, c'était comme ça. On est encore dans cet univers-là de genre de systèmes qui ne sont pas designés de façon suffisamment sérieuse ou l'impératif de livrer sur le marché est arrivé trop vite. Fait que les gens, le produit qu'on a, il est trop excité. Puis même si la sécurité dit non, fais pas ça tout de suite, il sort pareil. Fait qu'on est, on est un peu encore dans ce genre de réflexion-là.
À la time to market est souvent très important. Comme on dit, les stakeholders, eux autres, ils veulent des résultats. Ils veulent que l'argent se mette à rentrer. Ben, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on vire les coins ronds, on balaye en dessous du tapis, puis on se croise les doigts. Puis on dit, je vais me faire taper ses doigts, mais quand, je le sais pas.
On va se faire attraper. Fait que c'est ça, c'est un peu un rappel comme ça. Puis pour le nombre d'événements que je vais, puis en plus, un bon prétexte d'utiliser ces événements pour faire des retours d'expérience comme on vient de faire là. D'autant plus intéressant à deux que le faire tout seul, par ailleurs. C'est justement ce rappel-là d'arrêter, de dire, OK, ben le feature va être moins évolué, mais on ne viendra pas contourner la sécurité. Là, ils vont laisser la sécurité pour aller sur 100% du feature. Non, enlevez, ne faites pas 100% du feature. Faites-le correctement. Puis j'en avais, je pense que ça doit être Objective by the Sea, je pense que j'avais vu celle-là, mais c'est vraiment d'instaurer cet élément-là dans le cycle de développement, puis d'arrêter. C'est le feature. Il ne sera juste pas développé, il ne sera pas sorti tant que la sécurité qui va avec ne sera pas adéquate. Fait que si tu veux rogner sa sécurité, ben ton feature ne sortira pas. Fait que tu sais, on est dans ce contexte-là. Fait qu'à ce moment-là, tu vas déjà planifier dans ton budget, dans les temps. Fait que la sécurité va arriver au bon moment, va se faire bien comme il faut. Puis c'est même dans l'absolu, pour moi, c'est même pas de la sécurité. C'est juste de prendre le temps de bien faire les choses. Puis à terme, puis je trouve qu'on est dans un domaine complètement absurde. Là, parce qu'on fait. Dans l'absolu, on fait du contrôle qualité pour s'assurer que le pont, il va tenir. C'est juste ça qu'on fait. On fait juste s'assurer que le pont va tenir, qu'on n'a pas tourné les coins ronds. Fait qu'on se retrouve comme les ingénieurs de chantier à aller superviser que les travailleurs font les affaires correctement puis respectent les specs. Ben, c'est la cybersécurité. On fait simplement ça. Juste superviser, s'assurer que les specs ont été respectés, que les règles de l'art ont été respectées. Puis que le pont ne tombera pas dans la face.
Vous tournez coin rond, on va le trouver. C'est ça qu'il veut dire. On va le trouver. Caroline, on va le trouver.
Ça va toujours finir par se faire trouver. Là.
Et voilà. Bref.
Hey, on va conclure sur ça. Ça a été super trippant. Ça a été de revenir après le confinement, de revoir. Puis ça fait un bout de temps qu'on n'était pas venu. Fait que très plaisant.
Ouais, super le fun. On loge au Vénitien cette année. Puis on n'est vraiment pas déçus. Très, très cool comme place.
Whip. Yep.